Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller. Comment ça va chez vous? J'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles du vendredi 22 octobre. Vous le savez, chaque année, octobre, c'est octobre rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Et justement, aujourd'hui, dans la maison des maternelles, sur France 2, ce matin, on a reçu Charlotte. Charlotte, mariée, maman de 3 enfants et un cancer du sein. Donc Charlotte va nous raconter son parcours évidemment douloureux, angoissant comme vous pouvez vous en douter, et puis nous en parlerons dans la foulée avec Nicole Landry Daté. On écoute d'abord Charlotte qui se confie à Agathe Le Caron, c'est parti.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être ici, merci d'être dans la maison des maternelles.
Merci de m'avoir invité.
Alors je vous présente, vous êtes la maman comblée de 3 filles, Pénélope qui a 13 ans, Scarlett 11 ans, Hermine 4 ans, et vous aviez, selon la formule consacrée, tout pour être heureuse, voilà. Oui. Jusqu'à ce jour de 2019 où on vous diagnostique un cancer du sein. Alors évidemment, on imagine la déflagration, voilà. Tout s'écroule. Aujourd'hui, vous allez bien. Et en fait, votre témoignage, il est ultra important, tout comme votre bouquin, parce que vous donnez les bons conseils, finalement, pour l'entourage, quoi. Et Dieu sait que c'est clé, l'entourage.
En fait, on ne se rend pas compte à quel point on aura besoin de nos amis, notre famille. On m'en avait parlé, mais je ne voyais pas vraiment, vraiment ce que ça impliquait. Et effectivement, on s'aperçoit à la fin qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et voilà.
Bon, on va récapituler un petit peu votre histoire. Donc en 2019, vous avez 38 ans, vous avez un super mari, 3 filles. Elles avaient à l'époque 11, 9 et 15 mois, donc vous aviez un tout petit bébé.
Ouais.
Ça, c'est vraiment dur. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre vie à l'époque ?
Ben, en fait, quand on a un bébé de 15 mois avec deux grandes, parce qu'on avait quand même attendu entre les trois, ben, on est content qu'elle, à 15 mois, c'est plus vraiment un bébé. Ça reste notre bébé, mais c'est plus vraiment un bébé. Donc, on est soulagé, on commence à passer à autre chose. On part en vacances, on profite de la vie. On commence à se dire, ah, je respire enfin, je peux redevenir femme, mère. Voilà. Je ne suis pas que maman de mon petit dernier. Voilà.
Alors, en mars, vous sentez dans votre douche une balle de golf, quoi, une boule vraiment de la taille d'une balle de golf. Vous vous inquiétez pas trop, mais vous prenez quand même rendez-vous pour une mammographie. Ensuite, il y a un prélèvement. Et là, le verdict tombe.
Oui, en fait, cette période où on fait l'échographie, moi, c'était plutôt une échographie parce que c'était vraiment pas inquiétant.
Oui, votre gynéco n'était pas très inquiétante.
Oui, elle me dit oui, partez en vacances, il n'y a pas de souci. Ça se transforme en mammo qui se transforme en ponction. La ponction, on nous dit, on commence à nous parler de chirurgie. On se dit, mais je suis venue pour une échographie, en fait. Je vais pas. Voilà. Et finalement, ça se transforme et c'est la catastrophe. Quand on attend le verdict, ce laps de temps est terrible. On se voit mourir, on se voit à son enterrement. La nuit, j'étais en train d'écrire un texte en me disant, super, je vais avoir le temps d'écrire un texte qu'on pourra lire à mon enterrement. Enfin, c'était vraiment glauque. Enfin, on se voit mourir.
Mais voilà. C'est atroce. Atroce. Qu'est-ce qui se passe donc une fois que vous avez le diagnostic, c'est-à-dire l'attente est terminée, donc maintenant vous savez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?
Ben là,
vous êtes plutôt combattante ou vous êtes...
Parce qu'en fait, on s'est vu mourir avant, pendant cette période où on n'a pas la réponse, où les analyses sont en anapath, où ils analysent exactement quel cancer vous avez, ou si vous n'avez rien, enfin ça peut être un kyste, ça peut être autre chose. Évidemment, vous pensez au pire. Mais il y a plusieurs cancers différents, ça il faut bien le dire, il n'y a pas que un cancer du sein. Il y en a plein. Et donc, on va savoir ce qui nous attend. Et là, on vous dit le protocole. Donc, quand on vous donne le protocole, les 6 mois de chimiothérapie, enfin voilà, tout ce qui va vous arriver, là, effectivement, moi, je me suis dit, on n'est pas en train de parler de moi. C'est pas de
vous
moi.
Vous avez un truc un peu de dissociation, quoi.
Ouais.
Vous êtes à côté de
vous. Alors, il y a des psys qui m'ont dit, c'est normal, ça, c'est un gros choc psychologique. J'étais vraiment debout en face de moi, et je me disais, ah, elle n'a pas de chance, elle, c'est pas cool ce qui lui arrive. Et là, là, on part en guerre. Là, on a un planning, on a un protocole, et là, on se dit, ok, j'y vais, il va se passer ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille, parce qu'on a une maladie mortelle.
Le côté prise en charge est aussi quelque chose, peut-être, qui est un peu rassurant. Si tout à coup, on est pris en charge, on n'a plus le choix, on y va. Alors, comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos filles ? Ça, c'est évidemment un moment que vous deviez redouter.
Bah, toujours pendant ce laps de temps où on se voit mourir, surtout ne rien dire. On garde pour soi, donc c'est ça aussi qui est très anxiogène. Parce qu'on les regarde d'un air attendri en se disant « je vais mourir, en fait, elles n'auront plus de maman ». Et l'annonce, on a attendu de savoir exactement ce qui allait se passer. Comme ça, on avait toutes les réponses. C'est-à-dire que toutes leurs questions, on pouvait y répondre. Donc on a fait ça un dimanche matin dans un cadre cocooning, dans le lit, tout le monde fait des câlins, etc. Et là, mon mari a annoncé la bombe, maman a une maladie très grave.
Et comment elles ont réagi? Quand on parle des enfants, c'était le moment où on craque. Alors, je vous laisse 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire?
Non, en fait, elles ont réagi, elles ont... Il y en a une qui m'a tout de suite demandé « est-ce que tu vas mourir ?» Donc là, on ne savait pas la réponse, mais on a dit non. On n'allait pas dire « ah, je ne sais pas ». Enfin là, donc là, c'était sûr, on disait non. Et puis après, c'était bon enfant. Je veux dire, il y en a une, on a parlé de la perruque, que j'allais perdre mes cheveux, on a tout dit, qu'on allait m'enlever le sein. Et du coup, il y en a une qui m'a dit « ah, super, je pourrais jouer avec ta perruque, tu pourras me les prêter, on pourra se déguiser ». Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler avec des enfants qui, en fait, voient le côté pas forcément négatif, voilà, qui peuvent le transformer.
La vie reprend tout de suite le dessus avec eux.
Ouais.
Bon, ensuite, tout est allé très vite, prise en charge très lourde, hein, vous l'avez dit, chimio, mastectomie, radiothérapie et tout. En tout, ça a duré 15 mois, c'est très long. Forcément, vous avez changé physiquement. Alors ça, par rapport aux enfants, comment est-ce que vous avez fait pour anticiper ces changements?
On leur avait tout dit.
Donc, elles s'attendaient à ce que vous perdiez vos cheveux et tout.
Ouais. Alors après, entre le dire et le vivre, il y a une différence. Mais je m'étais préparée, j'avais vraiment tout fait. J'avais la perruque, les bonnets. Je m'étais dit, si mon bébé arrive au milieu de la nuit parce qu'elle a fait un cauchemar, je ne voulais pas qu'elle me voie chauve au milieu de la nuit. Du coup, je m'étais dit, je dormirai avec un bonnet de nuit. Enfin voilà, j'avais tout prévu. Et en fait, la réalité fait que ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es au fond du gouffre, tu es en train de mourir dans ton lit, que tu es un bonnet de nuit, une perruque, que ta fille vienne te voir, mais en fait, tu restes naturel. Il faut juste vous imaginer, quand vous vivez 3 jours de gastro, vous ne pensez pas à vous maquiller pour que votre mari vous trouve jolie. Non, en fait, ça ne va pas ensemble. Vous êtes malade, elles le savent.
Et votre mari aussi le sait.
Oui, voilà. Après, évidemment, la culpabilité est juste énorme avec les enfants. On ne fait que ça, on ne fait que de culpabiliser. Comment j'ai pu faire ça à mes enfants? Pourquoi je suis tombée malade? Pourquoi toi, maman? Je ne sais pas. Enfin, pas de chance.
Et justement, les traitements, quand on est crevé, comment est-ce que vous faisiez avec les enfants? Vous arriviez à ne pas trop culpabiliser de ça?
Alors ça, finalement, non. Parce que, en fait, tous les médecins font que de vous répéter, il faut que vous vous occupiez de vous. Maintenant, il faut que vous vous occupiez de vous. Et ils vous le répètent et ils vous le répètent. Moi, je ne me suis jamais occupée de moi. Donc, j'étais là, ça ne me plaît pas de m'occuper de moi. Et en fait, vous apercevez que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une situation où vous ne pouvez pas vous lever. Du coup, on s'était bien organisé pour... ma mère venait toutes les semaines de chimio, alors qu'elle n'habite pas en France. Mon mari, évidemment, faisait du télétravail avant l'heure. C'était vraiment une organisation pour les enfants. Et puis eux, ils s'adaptent.
Bien sûr. Moralement, ça allait ou pas? Enfin, je veux dire...
Ouais. Alors, fait très attention. On est quand même très à l'écoute. Elles ont réagi de façon différente. Ma fille, la petite... Elle, à chaque fois qu'on lui disait que j'allais à l'hôpital, elle était inconsolable. Ça, c'était un peu dur. Mais il fallait qu'on la prévienne. On ne pouvait pas lui dire que j'allais
faire masser.
C'est pas possible. Et la grande, elle était plutôt... elle n'était pas dans le déni, mais elle était là, ouais, ok, très bien, tu vas à l'hôpital. Voilà. Et celle du milieu, elle avait des réactions physiques. Donc elle a été malade pendant un an. Très grosse crise de mal au ventre, à croire qu'elle avait une appendicite tous les dimanches. Quoi. Enfin, c'était à pas vouloir retourner à l'école. Elle nous a montré qu'elle allait pas bien. Donc, elle, on l'a fait suivre par un pédopsie et ça a été super. Voilà.
C'est parfois mieux. Ouais.
Voilà. La grande, je me dis que ce serait pas mal qu'elle y aille pour faire sortir tout ce qu'elle a intériorisé parce qu'elle est très, très timide, très introvertie. Et la petite dernière, en fait, on s'est aperçu que ce serait peut-être pas mal, maintenant qu'elle a 4 ans, d'aller voir quelqu'un aussi pour discuter. Parce que je me suis fait vacciner du Covid et j'avais juste un tout petit pansement. Et quand elle a vu le pansement, elle a repleuré pendant...
Ah,
elle voulait vraiment pas que je sois malade, que j'ai un petit bobo. Voilà. Et c'est là où on s'est dit... Ah,
Et ça, ça a changé quelque chose dans votre vision de votre rôle de maman?
Alors,
il y a eu un avant, un après?
Ouais. En fait, avant, je vivais pour mes enfants. C'est-à-dire que j'étais le stéréotype de la maman poule qui va se lever 45 fois par nuit. Et ce n'est pas un problème. Le matin, je n'allais pas me plaindre parce que... bon, parfois à mon mari quand même. Mais parce que bon, voilà, quand même, il faut qu'il se lève aussi de temps en temps. Mais voilà, j'étais, voilà, c'est mes enfants d'abord. Mon mari, je ne l'oublie pas. Mais voilà, c'était le bonheur de mes enfants avant le mien. C'est-à-dire que je passe même après le chien. Là, la maladie a fait que j'ai vu qu'elle pouvait très bien s'en sortir sans moi. Quand j'étais vraiment très, très malade et je voyais qu'elles étaient heureuses, je les entendais rire, j'entendais qu'il y avait des gens qui s'occupaient d'elles, je me disais, eh ben finalement, si je meurs, bon, ça sera triste, je ne verrai pas leur mariage, etc. Elles se diront toujours, oh, ma mère, machin. Mais je me disais, en fait, elles vivront très bien sans moi. Et là, on réalise, et c'est désagréable, hein, mais que finalement, on n'est pas si indispensable que ça, qu'elles iront bien, même si on n'est pas là. Et du coup, aujourd'hui, je profite de ma vie de femme. Même si je suis maman, je vais un petit peu plus profiter de moi.
Alors, vous venez de publier un super bouquin. Vraiment, je vous recommande. Ça s'appelle... Enfin, c'est un guide, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça s'appelle « Ma meilleure amie a un cancer du sein ». Il y a plein de conseils, finalement, pour l'entourage, quoi, pour les amis. Parce que c'est vrai que... Alors, c'est vachement compliqué, hein, quand on apprend la nouvelle qu'on a quelqu'un de proche qui a un cancer. On ne sait jamais trop quel mot choisir. Quelles sont les phrases à éviter, par exemple? Vous en listez plein.
Ouais.
vous listez les phrases à privilégier et les phrases à éviter. Par exemple, l'annonce.
Ouais, l'annonce, on évite de dire « Oh, mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour toi, t'es une battante. Mmh. » Bah, en fait, je vais mourir. Donc, si,
là, je ne suis pas du tout battante.
Tu peux te faire du souci pour moi, en fait. Mais ça part toujours d'un bon sentiment. C'est jamais pour être méchant. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où tout est un petit peu dramatique. On relativise tout. Donc, le dégât des autres, sa voisine, en fait, ça nous passe
au-dessus. Oui, les petits problèmes de terrien, ça.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on a l'impression d'être une grand-mère, mais tant que la santé va, tout va finalement.
Et aujourd'hui, vous allez bien en deux mots?
Aujourd'hui, je vais bien, je suis encore en reconstruction, parce que ça, c'est un deuxième chemin de croix. Mais il faut le faire et c'est super.
Nicole Landry-Daté, bonjour.
Bonjour,
merci beaucoup d'être sur le plateau. Vous êtes psychanalyste, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Ces enfants qui vivent le cancer d'un parent ». C'est aux éditions RS. Et puis Anatole l'a dit, que l'on peut se procurer gratuitement, je le précise, via le site des éditions Canoë. Vous avez travaillé à l'unité de psycho-oncologie de l'hôpital Gustave Roussy. Donc vous connaissez bien le sujet. Pour commencer, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer le cancer à ses enfants?
Une bonne manière.
Enfin, une moins pire, quoi.
Il y a sûrement une moins pire. Parce qu'une bonne manière, c'est toujours très difficile. Je crois que là, déjà, il y a une première chose qu'il faut savoir. Enfin, il me semble qu'il y a une première chose qui est importante, c'est de l'avoir digéré pour soi. C'est-à-dire qu'il faut un temps pour le parent pour encaisser un peu ce qui lui arrive.
Et Charlotte le disait, l'attente,
absolument,
de l'anapath, finalement, qui a été donc une peur panique, était peut-être salvatrice.
Absolument. Mm. Parce que sinon, on va retransmettre à l'enfant une intense angoisse. Et du coup, l'enfant, il n'aura pas le temps d'élaborer psychiquement. Et je crois qu'il est extrêmement important que le parent élabore psychiquement d'abord, enfin, qu'il digère, quoi, en fait. Et ensuite, il peut en parler. Alors après, la moins mauvaise manière, c'est de... Je vais reprendre la phrase d'enfants dans le groupe d'enfants que j'animais, qui était « Nous, on veut la vérité avec des mots gentils. Mmh. » Et de nous dire « On ne dit pas ça comme ça, ta mère a un cancer, occupe-toi de toi et puis ne t'occupe pas d'elle. » Ce qui est arrivé à cet enfant quand il nous a dit ça. Donc je crois qu'effectivement, la moins mauvaise manière d'annoncer les choses, c'est un peu ce que disait Charlotte, c'est de le faire progressivement. C'est-à-dire et de partir de ce que l'enfant constate. C'est-à-dire le parent ne travaille plus, il est à la maison, ou bien l'ambiance a un peu changé, on est beaucoup plus triste. Enfin, et donc, à ce moment-là, on repart de ce que l'enfant a constaté. On lui explique que oui, effectivement, on est un peu inquiet, que maman a découvert qu'elle avait une boule au sein et qu'on est allé faire des examens, on attend les résultats, où on les a déjà, ça dépend à quel moment on va le dire, et on a trouvé des mauvaises cellules. On parle d'abord de mauvaises cellules dans la boule. Ensuite, on parle
de la boule de des cellules.
Voilà.
Concrètement.
Concrètement, il faut parler des mauvaises cellules. Alors après, l'enfant va demander c'est quoi une cellule. Bon, on va lui expliquer un petit peu ce que c'est, mais bon, avec des mots simples. Et ensuite, on va lui dire ça s'appelle des cellules cancéreuses.
Oui, donc on dit les vrais mots. On a plein de questions qui arrivent, Nicole, donc on va essayer d'en poser le plus possible. Peut-être.
Notamment celle-ci, envoyée en vidéo par Émilie. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Émilie, j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans, en 2019. Mes enfants étaient alors âgés de 5 ans et des jumeaux de 18 mois. Ma question c'était comment on fait pour rassurer nos enfants sans leur mentir sur la gravité de la maladie, certainement en fonction de leur âge, quels mots on choisit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette émission, j'ai mis un petit pull rose pour Octobre Rose, voilà. C'est de circonstances. Bonne émission à vous.
Voilà, ça, c'est un message plein d'énergie. Ouais. Alors, comment on fait?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est d'employer les mots justes et les mots vrais. Donc, surtout avec des très jeunes enfants. Parce que pour les très jeunes enfants, un chat, c'est un chat. Ils ont une pensée très opératoire. Et pour eux, il n'y a pas de symbole. Il n'y a pas la pensée encore symbolique. Donc, il faut employer les vrais mots. Mais par contre, pour le mot cancer, par exemple, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est de dire des cellules cancéreuses. C'est moins fort déjà que cancer. Mmh. Et après, on emploiera le mot cancer. Vous voyez, on y va très progressivement, avec des mots gentils.
Question envoyée par Sabine, qui vous dit « Être maman avec un cancer, ça peut vouloir dire perdre ses cheveux, encore une épreuve pour des enfants. » Elle vous demande si c'est bien utile de préparer l'enfant au changement physique.
C'est souhaitable et recommandé.
Ouais.
Dans la mesure où c'est ce qu'expliquait Charlotte tout à l'heure, à savoir que si l'enfant, on imagine l'enfant arriver dans la salle de bain, voir sa maman sans cheveux, avec une grosse cicatrice et avec un sein en moins.
Sans avoir été préparé,
c'est un énorme choc. Ouais. Par contre, si on explique à l'enfant avant que les traitements vont faire qu'on va perdre ses cheveux, mais que quand le traitement sera fini, les cheveux vont repousser, je crois qu'il faut aussi bien préciser que ça repousse. Et puis ensuite, expliquer que ça va peut-être beaucoup fatiguer, qu'on va avoir des moments où on va peut-être être obligé de rester au lit, ou qu'on ne pourra pas beaucoup s'occuper d'eux. Enfin, faut les préparer à tout ça.
Mmh. Alors Jeanne vous dit, j'ai appris récemment que j'avais un cancer du sein. Mon fils m'a dit que la grand-mère d'un copain était morte d'un cancer du sein. Du coup, ben forcément, il est très inquiet. Comment le rassurer?
Alors, dans un premier temps, faut déjà comprendre qu'il est inquiet. Il faut entendre son inquiétude. On peut comprendre que tu es inquiet, mais les médecins, tous les soignants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour me soigner. Et on emploie le mot soigner plutôt que le mot guérir.
D'accord.
On ne peut pas promettre des choses dont on n'est pas sûr de tenir. Donc on va employer le mot soigner, mais on va dire que tout le monde fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il sait faire pour me soigner.
Angélique nous écrit à l'instant « Cancer de la thyroïde découvert et opéré pendant la grossesse. Je dois être hospitalisée 3 jours et m'isoler de mes enfants pendant 15 jours. Ma dernière n'a que 3 mois. Elle vous demande, peut-être qu'Arnaud vous pourrez aussi compléter, comment gérer la séparation ?» Tout petit qui a 3 mois.
Alors déjà, en mettant des mots, en expliquant et en expliquant le pourquoi on s'absente. Mais il me semble important aussi, alors je sais que dans les hôpitaux, on ne peut pas trop faire venir les enfants à l'hôpital, mais peut-être qu'avec des moyens modernes maintenant, on peut aussi faire des vidéos.
En visio,
pour parler à l'enfant. Est-ce qu'un enfant qui ne voit pas son parent pendant un certain temps, surtout les enfants très jeunes, il pense qu'il a disparu et qu'il ne le reverra plus. Donc il faut le rassurer sur le fait que le parent est toujours vivant, qu'il est là, mais qu'on ne peut pas le voir pour l'instant parce qu'il est en traitement, il est à l'hôpital. Mais il faut employer les vrais mots, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire expliquer avec des mots, même à 3 mois.
Arnaud, j'ai l'impression que sur tous les sujets qu'on traite dans cette émission, le conseil qui est toujours le même, c'est on dit les choses,
on emploie les vrais mots. Il ne faut pas mentir à l'enfant.
Peu importe les situations de la vie.
Le sujet de la mort, c'est un sujet extrêmement complexe que nous, dans notre culture, on a tendance à mettre de côté et ce n'est pas bon du tout. Et l'histoire de l'enfant de 3 mois,
trois mois,
la maman va s'absenter. L'histoire de la visio, c'est bien. C'est ce qu'on conseille d'ailleurs aux parents, la maman, quand elle va s'absenter, qu'elle va accoucher, par exemple. Faire des visios à distance avec le grand, pour pas qu'il y ait cette absence qui va manquer. Utiliser les bons mots, même à 3 mois, même à un nouveau-né.
Tentation serait de se dire il est trop petit, il comprend
rien. Surtout pas. Il y a des mots qu'on utilise. Et puis, il y a l'autre figure d'attachement, le père ou l'autre parent qui est là, qui va accompagner. C'est l'absence combien de jours, je ne sais plus.
15 jours.
15 jours. Alors, c'est sûr, c'est une certaine durée.
C'est très long pour un
c'est une certaine durée, mois, ouais. Mais c'est plus facile à cet âge-là, mais utiliser les bons mots. Mm. Et puis, il y a l'autre figure d'attachement, ça compte. Puis la visio, la visio, c'est important.
Oui, pas d'écran avant 3 ans, sauf...
Oui, sauf, oui,
mais, sauf exception. Ah, oui.
Sauf ça et dans les téléconsultations.
Oui, voilà, c'est vrai.
Alors, Louise vous dit « J'ai peur de ne pas arriver à bout de mon cancer. Dois-je continuer à me projeter dans l'avenir avec mes enfants? Je ne veux ni les inquiéter, ni leur donner de faux espoirs. Quelle position adopter ?» Je pense qu'il faut vraiment l'aider.
Alors, je crois que la position, me semble-t-il, c'est être dans la vie, dans le mouvement de la vie. Tant qu'on est vivant, on est dans des projets, on est dans le désir. Et c'est important de pouvoir réaliser ou même envisager des projets avec les enfants. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et donc, tant qu'on est vivant, on est dans le mouvement, on est dans la vie et les enfants avec. Alors maintenant, effectivement, s'il y a des traitements, il faut expliquer qu'on est en traitement. On ne sait pas si on pourra demain aller au cinéma ou autre parce qu'on ne sait pas comment on sera. Parce que c'est un peu ça, la maladie. C'est d'un jour à l'autre, on ne sait pas comment on va être.
Mais c'est plus peut-être, il faudrait peut-être qu'elle se fasse accompagner pour retrouver une combativité.
Alors, probablement c'est toujours un peu difficile de... J'allais dire, il ne faut pas être mort avant d'être mort, quoi. C'est-à-dire qu'il faut...
Il faut la trouver, cette force.
Alors, probablement qu'elle a besoin que quelqu'un l'aide ou l'accompagne, ou bien des amis ou de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un de spécialisé, de psy. Lui redonner cet élan vital et j'allais dire, réanimer le désir de vivre, enfin, réanimer
de
ce...
De se battre.
Valou demande à partir de quel âge il est recommandé de faire une mammographie, parce qu'elle explique que certains professionnels recommandent des 40 ans, quand d'autres disent des 50 ans. Est-ce qu'on peut faire un petit point?
Alors là, moi, je ne suis pas très spécialiste.
Ouais, effectivement.
C'est peut-être le médecin qui peut répondre. En fonction des antécédents familiaux.
En fonction des antécédents familiaux.
Ça fait à voir avec le gynécologue. Effectivement, il y a des parties.
Bon,
des
je vous posais cette question parce qu'elle est beaucoup revenue. Donc, je me suis dit, je la pose une fois. Et ensuite, on revient à notre sujet. Tiens, Marielle, peut-être, qui vous demande là aussi à tous les deux, comment rassurer son enfant sans lui mentir? Alors, on a dit, il faut dire les choses. Mais la tentation, je pense, c'est quand même de vouloir rassurer. Même si on ne peut pas dire, bon, je vais guérir, t'inquiète pas, ça va passer.
Charlotte l'a dit tout à l'heure, quand ses filles ont dit, mais tu vas mourir, elle a répondu non. Ils n'ont pas réussi à dire.
Peut-être.
On ne sait pas.
Mais on les comprend.
Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire tout le monde fait tout ce qu'il peut, j'ai des traitements. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important d'expliquer à l'enfant les traitements qu'on va recevoir, même en les accompagnant effectivement des effets secondaires. Mais d'expliquer qu'on fait tout ce qu'on peut pour se soigner et qu'on y croit. Ouais.
Mais est-ce que je rebondis sur ce que dit Agathe, quand Charlotte a dit à ses enfants non, je ne vais pas mourir. Est-ce que ce n'est pas une manière pour elle, à ce moment-là, de le graver dans le marbre et dire non?
C'est difficile à dire, mais...
Ça ne peut pas aider, ça, justement, à être...
C'est-à-dire qu'on peut le souhaiter.
Ouais.
On n'a pas envie de mourir.
Ouais.
Mais on ne peut pas dire non, je ne vais pas mourir.
C'est-à-dire que si ça arrive, le problème, c'est qu'après, les enfants, ils perdent confiance en leur référent, j'imagine.
Je crois que c'est très important de rappeler pourquoi ne pas mentir à l'enfant, parce que l'enfant se construit sur la confiance. Et s'il découvre le mensonge des adultes, il n'aura plus confiance, c'est un effondrement psychique. Donc dire par exemple non, je ne vais pas mourir, c'est que c'est l'adulte qui se rassure en se disant ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire non plus, c'est sûr, je vais mourir. Mais c'est de dire, on fait tout ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un accompagnement là, pour le parent.
Alors, il faut un accompagnement. Et en même temps, parce que c'est comme vous dites, si jamais ça se termine mal, l'enfant va dire, vous m'avez menti. Et on l'a souvent vu avec les enfants. Quand ça arrive, les enfants sont plus traumatisés par la découverte du mensonge
Que par la mort, finalement.
Marie vous demande, faut-il que l'enfant vienne à l'hôpital voir le parent malade? On a évoqué la visio tout à l'heure, qui est bien. Quand les enfants peuvent, c'est une bonne chose?
Alors, moi, je serais partisane pour que les enfants viennent absolument à l'hôpital, même les tout-petits bébés, même les petits, dans la mesure où, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ils sont très petits, quand l'enfant n'y voit plus le parent, il pense qu'il a disparu ou qu'il est mort. Et puis, c'est une façon aussi de maintenir le lien d'attachement, et que l'enfant puisse aussi, quand il pense à son parent, à se représenter l'endroit où il est. Sinon, il est dans une nébuleuse, on ne sait pas, il est... Vous voyez, et je sais qu'à l'hôpital, à l'Institut Gustave Roussy, on a ouvert les portes aux enfants, même en réanimation, Et ça a tout changé.
Bien sûr.
Parce que de toute façon, ils imaginent, j'imagine, toujours pire
bien sûr.
Que la réalité.
Absolument.
Alors, une dernière question, je pense, de Juliette, qui dit « Depuis ma chimiothérapie, ma petite-fille ne veut plus qu'on lui lave la tête car elle a peur de perdre ses cheveux. Comment réagir ?»
Alors, c'est d'abord essayer de comprendre, qu'elle explique pourquoi elle a, enfin, de quoi elle a peur vraiment. Ensuite, peut-être se faire aider ou par le médecin traitant ou pour expliquer pourquoi on perd les cheveux. Que c'est les traitements qui font qu'on perd les cheveux et que dès qu'on arrête les traitements, les cheveux vont repousser. Et je crois que là, il faut se faire aider par le médecin qui peut expliquer que les traitements abîment les cellules et les cellules fragiles, comme les cellules des cheveux, et que ça fait tomber les cheveux. Mais dès qu'on arrête les traitements, les cheveux vont repousser.
Le médecin ou le pédiatre?
Oui, j'imagine c'est vrai que l'enfant, quel que soit son âge, a du mal à se projeter. Parce que, comme vous le disiez, c'est l'adulte qui se... C'est une relation miroir, presque. Et qui voit l'enfant et qui se met à sa place. Mais l'enfant, il n'a pas la notion du temps, la même notion du temps. Il n'a pas la notion de la mort, il ne sait pas ce que c'est. Il sent juste une angoisse chez le parent.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler jusqu'à la notion de la mort, justement, à partir de quel âge ils vont l'acquérir?
Ben, je dirais qu'on parlait de la permanence de l'objet avant, vers 9 mois, 8-9 mois, c'est là que l'enfant prend conscience qu'il n'est plus la prolongation de ses parents, mais qu'il devient une personne à part entière.
Oui.
Et on peut dire que c'est là que ça commence un peu, quelque part. Alors évidemment, l'image d'attachement, cette fameuse permanence de l'objet, la maman disparaît derrière la porte, elle n'existe plus, elle est morte, elle n'existe plus. Donc on joue avec les linges qu'on met sur la tête pour le rassurer, ben non, maman est là. Après, ça évolue en fonction des tranches d'âge, ça c'est sûr. Et il faut utiliser des mots adaptés.
Ça, c'est le plus difficile.
C'est plus compliqué.
Allez, on prend une dernière question de Paul. Mon fils a peur d'attraper mon cancer comme un virus. J'essaie de lui expliquer comment fonctionne cette maladie, mais ce n'est pas simple. Avez-vous des livres à conseiller qui puissent servir de support?
Alors, il y a effectivement le livre d'Anatole Ladi, auquel j'ai contribué, et qui explique bien la maladie.
Alors, on peut préciser qu'il est téléchargeable gratuitement sur le site knoé.fr. Enfin, K, la lettre K, noé.fr. Voilà. Téléchargement gratuitement, je le dis pour Paul.
Qui explique la différence. Enfin, là aussi, on peut se faire aider par le médecin ou le pédiatre, parce que la parole du médecin est très importante pour l'enfant. C'est le docteur qui me l'a dit. Donc, c'est de se faire expliquer la différence entre le virus et puis les cellules cancéreuses. Enfin, c'est la contamination et le... Ouais. Alors après, c'est en fonction des âges. Bon, je pense que...
Ah, mais très tôt, ils peuvent comprendre plein de
absolument.
Choses.
Absolument.
Hein. L'histoire des paillettes pour la Covid, ils comprennent
absolument.
Très jeune déjà.
Absolument.
Voilà, merci beaucoup à Nicole Landry-Daté d'être venue nous voir dans la maison des maternelles et merci infiniment à Charlotte, à elle aussi, d'être venue nous voir. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles, c'est la fin d'une semaine de podcast des maternelles. On se retrouve lundi sur France 2 à partir de 9h25 et puis bien sûr tout le week-end, toute la nuit, quand vous voulez, en podcast ou sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde !